Dans ce journal, vous retrouverez le rendez-vous politique du lundi. Il s'agit bien sûr de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Mathias Chaucha va pouvoir reprendre ses cours. L'inspection générale de l'éducation a rendu son avis. Les Calédoniens présents à Vivatech parlent d'une réussite. Certains d'entre eux ont décroché des contrats. En Israël, des bombardements iraniens se poursuivent. Ils ont fait une dizaine de victimes parmi la population civile. Et puis le Salon du Bourget s'ouvre la nuit prochaine. Ce grand rendez-vous de l'aéronautique mondiale s'annonce morose pour sa 55e édition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi évidemment par le magazine des sports du lundi avec beaucoup d'informations à développer, Michael Juzneski, notamment du football avec une belle entrée en matière pour le PSG en Coupe du Monde des clubs.
Exactement, cette compétition en nouvelle, à peine la Ligue des Nations terminée, que voilà le Paris Saint-Germain à l'assaut de cette nouvelle formule voulue par la FIFA. 32 équipes engagées, ça va nous emmener jusqu'au mois de juillet. Et le PSG qui a bien lancé cette campagne en s'imposant face à l'Atlético Madrid, le plus sérieux client de son groupe, sur le score de 4-0.
En Formule 1, c'est un Britannique qui s'impose au Canada.
George Russell qui signe son premier succès cette saison. L'image qu'on retiendra, c'est celle des deux McLaren à la lutte. Et finalement, Lando Norris contraint à l'abandon après avoir endommagé sa monoplace. Il bataillait face à son coéquipier Oscar Piastri. Les McLaren ont tout dominé depuis le début de la saison. Mais si les deux pilotes de l'écurie entrent en conflit, cela pourrait offrir une nouvelle tournure au championnat du monde.
Le sport en Calédonie avec de la voile et la suite de la Groupama Race.
Une première journée et une première nuit déjà agitée dans le lagon pour les participants. Déjà deux abandons sur les 23 qui se sont élancés hier à l'assaut de cette New Caledonia Groupama Race. Rush Hour, lui, fait déjà son bonhomme de chemin. Le tenant du titre australien arrive déjà en vue de l'extrême nord de la Grande Terre. Il pourrait déjà entamer le retour vers la côte ouest cet après-midi.
Et avec nos invités, nous parlerons golf.
Oui, les qualifications pour la Coupe du Monde amateur de la discipline. Deux places pour des représentants du territoire. La finale aura lieu en local le 26 juillet à Deva pour aller jouer un tournoi en Égypte au mois d'octobre. Nous en parlerons avec Laurent Huth, l'organisateur sur le territoire de cette compétition, ainsi que Valérie Lechêne et Nicolas Sauget, des amateurs qui avaient représenté la Calédonie lors de l'édition 2023. C'était à l'île Maurice.
Le magazine des sports du lundi a retrouvé dès la fin de cette édition. Journal que nous ouvrons avec le rendez-vous du lundi. Et c'est bien sûr la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir.
La pensée complexe d'Emmanuel Macron a encore frappé. Depuis que le président de la République a prononcé quelques phrases sur la Nouvelle-Calédonie lors du sommet France-Pacifique à Nice, chacun se livre à l'exégèse des propos du chef de l'État. On en retient qu'il veut réunir un sommet sur le dossier calédonien. Un sommet, ce n'est pas rien. C'est bien au-dessus du comité de suivi dont avait parlé Manuel Valls. Le président de la République veut aussi un projet nouveau. Et là aussi, on se perd en conjectures. Nouveau par rapport à quoi ? Par rapport à l'accord de Nouméa ou par rapport au projet d'indépendance d'association du ministre des Outre-mer ? Mais ce sont les propos d'Emmanuel Macron sur les référendums qui soulèvent le plus d'interrogations. Il rappelle d'abord que trois référendums ont permis une expression de maintien dans la République française. C'est donc incontestablement une validation du résultat des trois consultations qui ont acté la volonté des Calédoniens de rester français. C'est d'ailleurs conforme à l'expression constante du chef de l'État sur le sujet et c'est plutôt rassurant. Mais ce qui interpelle, c'est la digression à laquelle il se livre ensuite sur la nature même des référendums, quand il déclare que ni la culture pacifique, ni la culture océanienne ou mélanésienne ne sont totalement faites pour les référendums, et qu'il ajoute « ce sont des cultures de concertation où la circularité est plus adaptée qu'un caractère tranché du oui ou non ». C'est une reconnaissance de l'exigence du compromis liée à l'esprit de consensus que revendiquent les sociétés océaniennes. Mais c'est aussi une révision de la sortie de l'accord de Nouméa à laquelle se livre le président de la République. « Nous avons hérité de ce processus qui prévoyait les trois référendums », regrette Emmanuel Macron. « On ne refera pas les mêmes erreurs pour la suite ». C'est clairement un rejet des référendums binaires qui nous ont été imposés à trois reprises. Et c'est aussi l'assurance qu'il ne veut plus soumettre les Calédoniens à un tel exercice. Et l'on a envie de dire... Enfin, parce que cela fait des années que certains s'évertuent à expliquer que les référendums binaires, ce n'est pas la solution. Et on ne peut pas ne pas citer Pierre Frogier qui, très tôt, a mis en garde contre ces référendums à répétition qui enferment notre avenir dans des logiques identitaires, qui exacerbent les tensions et qui obèrent notre avenir. Et il n'a cessé de répéter année après année que le processus fragile des accords risquait de se fracasser sur des référendums qui, dans leur brutalité majoritaire, n'apporteraient aucune solution d'avenir. Le message a peut-être fini par être entendu au plus haut sommet de l'État. Mais un peu tard. La libération de Christian Théin arrive, elle, un peu tôt. Et sans doute pas au bon moment. Le leader de la CCAT reste bien sûr mis en examen pour son implication présumée dans les violences insurrectionnelles de mai 2024. Il est sous contrôle judiciaire et il a l'interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie. Mais fallait-il le remettre en liberté en pleine séquence de discussions sur l'avenir? Le FLNKS ne pourra pas faire autrement que de réclamer sa présence aux négociations. Et les partisans de la France ne pourront que s'y opposer. Ce qui va rendre problématique la poursuite des discussions. Mais même s'ils s'en réjouissent publiquement, les indépendantistes se sont-ils vraiment soulagés de cette remise en liberté? Emprisonné, le leader de la CCAT était une icône, un symbole, voire un martyr. Libre, il devient encombrant pour les leaders du FLNKS qui ne l'ont nommé à la présidence que justement parce qu'il était incarcéré et qui vont maintenant devoir le gérer en liberté et suivre ses directives. Et si la libération de Christian Théin était aussi un cadeau empoisonné pour les indépendantistes?
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez comme chaque semaine sur notre site internet. Elle est aussi rediffusée chaque lundi, juste après le flash de 16h cet après-midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Êtes-vous choqué par la remise en liberté de Christian Théin? Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Mathias Chauchat n'est plus suspendu de cours. La période arrivait à échéance et l'UNC a indiqué dans un courrier interne qu'il pourra de nouveau enseigner au deuxième semestre. La mesure de suspension avait été prise à titre conservatoire après des propos qu'il a tenus lors du conseil d'administration du 27 septembre dernier, Nicolas Legrand.
Oui, souvenez-vous, Catherine Riss, la présidente de l'UNC, avait condamné avec la plus grande fermeté les propos tenus par Mathias Chauchat ce jour-là. Le professeur avait en fait justifié l'agression d'un vigile, deux incendies criminels et une tentative d'incendie par le lien de filiation entre un enseignant-chercheur de l'UNC et la mairie de Nouméa. Il avait été suspendu à titre conservatoire pour ses propos tenus également sur le réseau social X à l'encontre de son collègue. Il lui avait été aussi reproché de faire œuvre de propagande politique durant ses cours au lieu d'enseigner sa matière. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, missionnée par le ministère de l'enseignement supérieur, avait été saisie. Et après plusieurs mois d'instruction, l'inspection a remis son rapport et indique que les propos de Mathias Chauchat, bien que maladroits, ne peuvent être considérés comme constitutifs d'une faute disciplinaire au regard de l'incendie survenu sur le campus de Nouville. Elle indique également qu'aucune menace n'a été formulée à l'encontre de membres du conseil d'administration ou d'universitaires. Et concernant les faits de propagande, enfin, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche relève que Mathias Chauchat a pu excéder à plusieurs reprises les limites attendues en matière de mesure et d'équilibre dans l'expression pédagogique. La plupart de ces faits, en revanche, selon l'inspection, remontent à plusieurs années et se trouvent donc prescrits. À la lumière des faits, l'inspection préconise un rappel à l'ordre de Mathias Chauchat. L'arrêté de suspension conservatoire est levé car il arrive à échéance.
Il est 11h39, la première pause de ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB 11h 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'ISEE publie sa dernière étude sur l'indice des prix à la consommation. Elle porte sur le mois de mai dernier et on note, Michael Juneski, une baisse générale de 0,2%.
Effectivement, en mai 2025, l'indice des prix à la consommation des ménages et l'indice hors tabac diminuent selon l'Institut de la Statistique et des Études Économiques de 0,2% après une hausse de 0,5% en avril. Ce repli s'explique principalement, selon l'ISEE, par la diminution de 2,1% des prix de l'énergie et dans une moindre mesure par la diminution des prix des produits manufacturés, moins 0,3%, ainsi que des services, moins 0,1%. Mais dans le détail, les prix de l'alimentation augmentent, plus 0,3% selon l'ISEE. Ce sont principalement les légumes qui contribuent à cette hausse, plus 2,7% et 9,7% d'augmentation en l'espace d'un an. Autre constat, après un rebond de 1,1% en avril, les prix des produits manufacturés sont donc de nouveau en baisse au mois de mai, moins 0,3%. De manière globale, depuis un an et les émeutes insurrectionnelles débutées le 13 mai 2024, l'indice général augmente de 1,6% et l'indice hors tabac de 1,7%. Sur la même période, la hausse des prix est presque deux fois plus importante pour les ménages les plus modestes, plus 3,1%. C'est donc une baisse de 0,2% des prix qui est constatée en mai, mais une hausse annuelle de 1,6% selon l'Institut de la Statistique et des Études Économiques.
Le salon Vivatech a refermé ses portes hier à Paris et la délégation calédonienne qui a fait le déplacement pour l'occasion s'est dit satisfaite d'avoir pu participer à ce sommet mondial de l'innovation technologique.
Les acteurs du domaine expriment une grande satisfaction, notamment vis-à-vis des échanges conclus à cette occasion, des contrats de marché remportés par des start-up calédoniennes qui étaient représentées. Le salon Vivatech était une grande vitrine des entrepreneurs de la tech. Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge notamment du numérique, était sur place.
Un véritable succès parce que les différents objectifs qu'on s'était fixés, à la fois de montrer l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie, parce que l'année dernière, quand il y a eu le salon Vivatech, c'était au plein milieu des émeutes, c'était pas du tout le même contexte pour la Nouvelle-Calédonie. On voit qu'un an plus tard, on est en capacité d'envoyer des entreprises calédoniennes qui sont performantes. On est en capacité d'avoir un stand dans le plus grand salon mondial de la tech au milieu de Meta, Facebook, de KPMG, de LVMH, de Total, du stand du Japon qui était juste à côté de nous. Donc ça, c'est une vraie première réussite. La deuxième réussite, et c'est pour ça surtout qu'on envoie des entreprises calédoniennes sur place, c'est pour passer des contrats, avoir des relations avec d'autres entreprises. Là aussi, c'est un très très grand succès pour nos entreprises calédoniennes et donc on est très fiers d'eux et donc le résultat est atteint.
Un appel à candidature avait été lancé sur le territoire pour sélectionner 8 entreprises calédoniennes afin de participer à cette édition de Vivatech. Durant ces journées d'exposition à Paris, plusieurs opportunités d'affaires concrètes ont été nouées, des contacts prometteurs avec des investisseurs, des distributeurs, des clients potentiels, mais aussi des institutions nationales et internationales avec des retombées importantes pour la Calédonie et les créations d'emplois. L'objectif à long terme, montrer le savoir-faire et la dynamique lancée autour de la tech calédonienne.
Quand on voit Fire Tracking, qui est une intelligence artificielle pour détecter les feux de forêt, qui est retenue parmi les meilleures startups du salon, quand on les rencontre avec l'ambassadeur du Canada en France, ou qui permet d'avoir d'autres relations sur le salon, d'autres startups comme Testeum, qui avait déjà des contrats avec la Redoute, mais qui est en capacité d'échanger avec les plus hautes instances de Michelin ou de Total. Je leur laisserai faire ce retour-là, mais en tout cas, il y a eu vraiment des très beaux contacts. On a aussi une start-up qui était sur le stand de la Pacific Tech qui a été retenue pour échanger avec le président de la République. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les dirigeants de Total sur des investissements privés en Nouvelle-Calédonie, d'échanger avec les partenaires de La Réunion et les élus de l'île de La Réunion pour renforcer les liens économiques à la fois en export et en import. Ça montre que la diversification économique en Nouvelle-Calédonie, c'est pas que des mots, c'est aussi des vrais actes et donc ça permet de montrer le savoir-faire calédonien dans ce domaine.
Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge notamment du numérique que nous avons pu contacter sur place à Paris. L'exécutif calédonien souligne qu'à cette occasion, la Nouvelle-Calédonie a démontré qu'elle est capable de se relever et de porter une autre image d'elle-même, celle d'un territoire qui construit son avenir au-delà de la dépendance au nickel. Alcide Ponga, le président du gouvernement, avait aussi été soutenir les start-up et cette stratégie de diversification économique dans la filière d'innovation numérique. Un retour d'expérience global sera effectué à Nouméa lorsque l'ensemble des délégations seront rentrées de ce salon Vivatech 2025.
L'État soutient les communes calédoniennes. Le haut-commissaire Jacques Billon s'est rendu au Mont-d'Or la semaine dernière. Il a confirmé les aides en faveur de la commune, notamment des subventions de 73 millions de francs dans le cadre de la reconstruction et de la réhabilitation des équipements publics dégradés ou détruits pendant les émeutes de 2024. L'État va également permettre à la commune de s'équiper davantage pour assurer la sécurité des Mondoriens, nous a dit le maire du Mont d'Or, Elisabeth Rivière.
L'État nous a accompagnés dans la reconstruction de l'ensemble de notre mobilier qui a été détruit, notamment sur la case des communautés qui nous tient à cœur, puisque c'est un lieu vraiment important pour la commune. L'État est intervenu à 80% pour financer cette reconstruction, c'est-à-dire un montant de 9,8 millions sur les 12,3 millions que nous a coûté cette reconstruction. Mais l'État a aussi accepté, et c'est ce qu'il nous a annoncé, d'élargir le champ d'intervention des fonds à la reconstruction, à l'éclairage public et à la vidéoprotection. Donc pour l'éclairage public, ce sera 33,5 millions et pour la vidéoprotection, 32,5 millions. C'est des budgets qui sont conséquents et qui sont importants pour nous, puisque nous misons sur la sécurité, notamment dans notre centre-ville et sur l'ensemble de la commune.
Elisabeth Rivière, qui était donc notre invitée ce matin à 7h30, a été installée maire du Mont d'Or il y a maintenant 3 semaines, après la démission d'Eddie Lecourieux. Elle a déjà organisé plusieurs visites de terrain, notamment avec François-Xavier Bellamy, le premier vice-président des LR, ou encore le haut-commissaire Jacques Billan. Des visites importantes pour Elisabeth Rivière.
C'est quelque chose qui me tient à cœur, que nos équipes d'élus souhaitent aussi mettre en place. Et bien, pas plus tard que jeudi dernier, j'étais sur place avec la gendarmerie et la police municipale dans un quartier de la ville, à Robasson, pour informer les gens sur les personnes qui pourraient voir, qui pourraient être suspectes. La gendarmerie a fait un document qu'on a remis aux administrés pour qu'ils puissent contacter rapidement les forces de l'ordre. Mais pas que. Nous sommes allés à la rencontre avec le haut-commissaire de certains commerçants du centre-ville, des commerçants du marché, et tout cet aspect de terrain, je vais le poursuivre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, parce que c'est important d'être au contact de notre population pour entendre quelles sont leurs difficultés, leurs besoins, mais aussi simplement d'entendre que ils sont aussi contents d'habiter sur cette belle commune.
Elisabeth Rivière annonce également que la mairie va renforcer les conseils de quartier, notamment pour y inclure l'animation et la vie quotidienne dans ces différents quartiers du Mont d'Or. Une interview à retrouver sur notre site internet rrb.nc. Dans l'actualité sociale, Force ouvrière organise depuis ce matin et jusqu'à 16h une mobilisation devant le camp Est. Le personnel du centre pénitentiaire souhaite exprimer son soutien à ses collègues de métropole qui manifestent également ce week-end, notamment pour une amélioration de ses conditions de travail. Aloysio Tamolé, le secrétaire adjoint de FO Justice de Nouméa.
L'ensemble des collègues du CP de Nouméa, donc alerte d'administration par rapport aux conditions déplorables du travail avec la surpopulation. On constate qu'il y a des secteurs où le taux d'occupation atteint 200%. Donc ça peut générer des violences entre détenus, mais notamment avec le personnel de surveillance. Un autre point aussi, c'est au niveau des affectations, des mobilités. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que toutes les affectations de mobilité, on respecte les centres d'intérêt moraux matériels pour permettre donc aux natifs et aux citoyens d'accéder à des postes de responsabilité comme l'encadrement et le commandement. Un autre point aussi, un manquement d'effectifs qui est très important. Donc il faut justice, alerte administration, pour prendre des mesures, pour pouvoir répondre donc à ces problématiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, il y a eu une prise d'otage au CP de Nouméa. Ce que nous, on veut, c'est la considération par rapport à ces agents-là pour que la confiance règne au sein du CP de Nouméa.
Une réunion est prévue demain entre toutes les organisations syndicales et la direction du camp Est. Comment lutter contre les maladies non transmissibles? Les MNT affectent plus de 80% des populations des territoires du Pacifique. Qu'il s'agisse de cancer, de diabète, d'AVC ou d'infarctus, ce sont des pathologies évitables et qui trouvent souvent leur origine dans des comportements adoptés dès l'adolescence. La communauté du Pacifique a donc développé un programme de formation de jeunes ambassadeurs. Pendant 4 jours, des jeunes âgés de 18 à 30 ans venant de 6 pays et territoires du Pacifique, Fidji, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore Île Salomon, reçoivent des informations sur ces maladies non transmissibles et la manière de les éviter. Le but est ensuite de coordonner des projets de prévention dans leur pays d'origine. Cette formation a commencé ce matin et dure jusqu'à jeudi. Il est 11h50. Dans un instant, nous évoquerons l'actualité à l'étranger, notamment évidemment les tensions militaires entre Israël et l'Iran.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
J Gédimat, 51 rue Hauer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Jean-François Baudin.
Et une nouvelle nuit dans les abris pour la population israélienne. En fin de semaine dernière, l'armée israélienne a bombardé plusieurs sites nucléaires iraniens. Le site de Natanz, notamment, a été fortement endommagé et le gouvernement israélien annonce aussi avoir éliminé le chef du renseignement iranien. Depuis 2 jours, Téhéran envoie une pluie de missiles sur Israël. La plupart sont arrêtés par le bouclier israélien, mais certains des projectiles ont atteint leur cible et ont fait une dizaine de victimes civiles. Des missiles ont déjà été tirés sur Israël à la tombée de la nuit, il y a quelques heures. Charles Bouchin pour Europe 1.
Israël ne sera bientôt plus habitable, a menacé l'Iran. Les services de renseignement israéliens ont d'ores et déjà repéré des préparatifs en Iran pour une prochaine salve de roquettes. Il y a donc fort à penser que les sirènes d'alerte vont retentir à nouveau cette nuit, car vous l'avez dit, des missiles ont déjà été envoyés par l'Iran à la tombée de la nuit, c'était aux alentours de 20h. Plusieurs zones ont été touchées en Israël, dans le nord et le sud du pays. Les équipes de sauvetage ont été directement envoyées sur plusieurs sites impactés. Les pompiers parlent notamment d'un impact direct sur un immeuble résidentiel sur la côte méditerranéenne. Mais pour le moment, on ne sait pas si des personnes ont été blessées lors de ces frappes. Toutes les nuits depuis jeudi, c'est le même scénario. Les Israéliens se font réveiller par des alertes assourdissantes sur leur téléphone, leur indiquant une attaque iranienne. Shana a 27 ans et habite à Tel Aviv.
On va dormir avec une sensation bizarre, sachant qu'on va être réveillé sans vouloir et avoir besoin de réagir très très vite.
Cette franco-israélienne vit dans un immeuble ancien qui ne possède pas d'abri. Elle doit alors traverser la rue et se réfugier au sous-sol d'un centre commercial aux côtés d'une centaine de personnes.
Ils ont ramené du centre commercial quelques coussins, des choses pour qu'on puisse s'asseoir facilement et on se pose dans la salle et on tient la main de nos proches. Le cœur y bat très fort pendant ces moments.
Au sud de Tel Aviv, du côté de Bat Yam, ville frappée la nuit dernière par l'Iran, Océane vit-elle dans un appartement qui possède ce que les Israéliens appellent un miklat, c'est-à-dire une chambre sécurisée en béton armé. Elle y a installé les 2 lits de ses filles.
Dans l'abri, dans la pièce forte, on a mis de quoi tenir, de l'eau, à manger, des biberons, des couches, etc. Voilà, si on venait à devoir rester plusieurs heures, on a de quoi tenir.
Et si les nuits sont longues et stressantes pour Océane et ses enfants, les journées le deviennent aussi. Pour la première fois depuis vendredi, une alerte a été donnée en plein jour.
Cette situation et une éventuelle escalade militaire suscitent évidemment de très nombreuses réactions. Le président américain n'a pas exclu une implication militaire des États-Unis. Il appelle le régime de Téhéran à revenir à la table des négociations sur le dossier nucléaire et il estime que Vladimir Poutine pourrait jouer un rôle de médiateur. Une hypothèse accueillie avec une certaine réserve, c'est le moins qu'on puisse dire, par Emmanuel Macron. Il l'a redit depuis le Groenland, où il a effectué une visite avant de rejoindre le Canada pour participer au G7.
Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent. Et là aussi, les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table, compte tenu du fait qu'avec les Européens, ils sont des protagonistes importants de tout accord nucléaire, et surtout que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies depuis maintenant plusieurs années, puisse être en quoi que ce soit un médiateur.
Les tensions militaires ont des répercussions économiques, notamment sur le prix du pétrole qui devrait repartir à la hausse. Le ministre français de l'Intérieur se dit aussi inquiet des répercussions du conflit en métropole. Bruno Retailleau annonce un renforcement des mesures de sécurité aux abords des lieux de culte juifs, mais aussi vis-à-vis des intérêts israéliens et américains. Les lieux pouvant accueillir du public et les événements festifs et culturels seront eux aussi sous plus haute surveillance. Et puis parmi les réactions, celle de l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. Il faut soutenir Israël dans son action contre l'Iran, estime-t-il.
Israël nous rend service. L'Iran n'a jamais respecté ses engagements. On a eu un accord en 2015. Cet accord n'a pas été respecté. Le traité de non-prolifération n'est pas respecté non plus par les Iraniens. Juste pour vous donner une idée, on estime aujourd'hui à environ 400 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ce qui veut dire qu'il faut quelques jours pour que l'Iran puisse atteindre des matières fissiles permettant de faire une bombe, c'est-à-dire à plus de 90%. On sait qu'il mène toute une série de travaux sur des éléments liés à l'arme nucléaire. Donc, en quelque sorte, ce que les Israéliens font, c'est ce que, j'allais dire, presque la communauté internationale aurait dû faire.
L'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, une émission que vous pouvez retrouver ce soir sur Radio Rythme Bleu, juste après le journal de 17h45. C'est dans ce contexte international tendu que s'ouvre le salon aéronautique du Bourget demain. Rendez-vous majeur dont la 55e édition s'annonce morose. Au contexte international actuel, il faut ajouter les perturbations engendrées par la politique américaine sur les droits de douane, les suites de la crise Covid, sans oublier le dernier crash aérien d'un Boeing en Inde. Les fabricants ont du mal à suivre, explique Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Plusieurs dizaines d'Airbus sont en attente d'être livrés. Les compagnies aériennes piaffent d'impatience pour renouveler leur flotte ou augmenter leur rotation. Mais voilà, chaque petit grain de sable met tout à l'arrêt, comme l'explique Jérôme Bouchard, spécialiste aéronautique du cabinet Oliver Wyman.
Un avion, c'est à peu près 1 million de pièces. Bien sûr, un avion ne peut pas quitter sa zone de production sans avoir ce 1 million de pièces au complet et correctement montées.
Il manque parfois des moteurs. Les fabricants ne sont pas nombreux et les problèmes d'approvisionnement sont loin d'être résolus. Il manque aussi des toilettes. Cela peut surprendre, mais cela s'explique.
C'est vrai que ça peut paraître extrêmement trivial, mais là aussi, nous sommes dans un avion. Des toilettes ont besoin d'être certifiées. Les toilettes d'un avion n'ont malheureusement rien à voir avec nos toilettes à la maison. Elles sont technologiquement beaucoup plus compliquées.
Et cela concerne surtout les A350, des contretemps fâcheux, mais Airbus se veut optimiste. L'objectif de livrer 820 appareils cette année reste d'actualité.